Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Le monde chrétien vient d'observer la fête de Noël alors que les médias publient ouvertement que le 25 décembre n'est pas la date de naissance de notre Sauveur. Leurs affirmations sont exactes. Le Christ n'est pas né fin décembre. Si vous voulez recevoir notre étude sur ce sujet, il vous suffit de nous la demander et elle vous sera expédiée gratuitement. Aujourd'hui, à l'aide de la parole de Dieu qui ne peut être interprétée, je voudrais vous faire comprendre la vérité sur la divinité de Jésus. Car on enseigne couramment que, lorsque le Fils de Dieu est venu sur cette terre, il y a environ 2000 ans, il avait gardé sa divinité. Cet enseignement contredit les Écritures, comme nous allons l'examiner. Lucifer était un des deux chérubins protecteurs du trône de Dieu. La description de l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament nous révèle que Dieu avait placé deux chérubins à chaque extrémité de son trône dans le tabernacle terrestre, qui était la représentation du trône céleste. Lisons ce que l'Éternel dit à Moïse. « Tu feras un propitiatoire d'or pur. Tu feras deux chérubins d'or. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Un de ces deux chérubins était Lucifer, qui devint Satan, l'adversaire, après sa rébellion contre Dieu. Lucifer, qui était très proche du trône de Dieu, avait reçu un entraînement particulier au sein du gouvernement divin, et il était expérimenté. Voilà pourquoi plus tard, Dieu lui confia son gouvernement sur les anges qui habitaient la terre. Le 28e chapitre du livre d'Ézéchiel raconte que Lucifer représentait le chef-d'œuvre de la création. Il était rempli de sagesse, parfait en beauté, intègre dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Lucifer, dont le nom signifie « astre de l'aurore », se lança à la conquête du trône de Dieu, entraînant avec lui un tiers des anges. C'est alors qu'il devint Satan l'adversaire. Lorsque les anges se rebellèrent contre le gouvernement divin, la beauté et la gloire initiale de notre planète furent, pour ainsi dire, effacées. Cette rébellion provoqua une destruction de la surface terrestre qui devint informe et vide, comme le décrivent les deux premiers versets de la Bible. Après cette tragédie qui engendra un véritable cataclysme, Dieu considéra que le moment était venu de se reproduire par l'intermédiaire d'êtres humains qui ne seraient plus immortels, bien que faits à son image et à sa ressemblance. Ces créatures seraient sujettes à la mort, ce qui n'est pas le cas pour les anges, qui sont des êtres spirituels et donc immortels. C'est alors qu'un plan de salut comprenant la venue éventuelle d'un sauveur fut prévu, comme le confirme l'apôtre Jean. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Cette citation est tirée de la Bible traduite par Louis II. Mais la construction de cette phrase ne correspond pas au texte original. Nous devons lire « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit » dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Pourtant, l'agneau n'a pas été immolé à cette époque-là. En effet, l'apôtre Pierre écrit au sujet du Christ « Un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » La fondation du monde, le mot « fondation » est traduit dans ces deux passages du grec « katabolé », mais lorsque ce mot est connecté au mot « monde », il a le sens de destruction violente, de ruine du monde. C'est ce qui s'est passé après la révolte des anges, lorsque la terre devint informe et vide. Et c'est alors que Dieu décida de se reproduire par l'intermédiaire d'êtres humains. À cette époque, une décision fut prise. Un des deux membres de la famille divine viendrait sur terre pour s'offrir en sacrifice afin de racheter l'humanité. Lorsque cette décision fut prise, Yahvé, l'Éternel, était un être spirituel. et puisqu'un être spirituel ne peut mourir, le sacrifice de l'agneau fut alors prévu. Et ce n'est que lorsqu'il vint sur terre, composé uniquement de chair et de sang, que ce sacrifice devint possible, pas avant. Pour mourir, l'Éternel devait devenir mortel, donc venir composé de chair et de sang. Dans son évangile, l'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous trouvons ici les deux membres de la famille divine. « Toutes choses ont été faites par elle, et la parole a été faite chair. » Lorsque ces personnages divins, ces Elohim, ces Tout-Puissants, envisagèrent de fonder une famille, ils décidèrent de créer l'homme, non pas en tant qu'être spirituel, mais physique. Ils se réservaient ainsi la possibilité de pouvoir le détruire définitivement s'ils se montraient rebelles et refusaient de se repentir. Mais l'homme peut être transformé en un être spirituel immortel s'il se montre soumis et obéissant et se repent sincèrement, adoptant le mode de vie qui nous est révélé dans les Écritures. Ce plan de salut nécessitait l'intervention d'un sauveur qui viendrait mourir pour racheter l'humanité de l'amende du péché, dont le salaire à payer est la mort, mais la mort éternelle. Celui qui deviendrait ce sauveur est celui qui est connu dans l'Ancien Testament sous le nom de YHWH, l'Éternel. Celui qui est, il serait engendré dans le sein d'une vierge par la puissance même du Très-Haut, son Saint-Esprit. Dès lors, le Très-Haut deviendrait un Père et l'Éternel deviendrait un Fils. Jésus est donc venu acquitter l'amende que nous avions à payer suite à nos péchés. Comprenez bien que cette amende est non pas la mort physique, mais la mort éternelle. Le péché dresse une barrière entre Dieu et l'homme. L'Éternel s'est donc sacrifié afin que l'on puisse être réconcilié avec Dieu. Si Jésus n'avait été qu'un être humain, sa mort n'aurait pu payer l'amende encourue que par un seul homme seulement. Mais puisque toutes choses ont été créées par celui qui allait devenir Jésus-Christ, il s'ensuit que notre Sauveur est aussi notre Créateur. Il est donc aussi un Dieu. Par conséquent, la vie qu'il a donnée a bien plus d'importance que celle de tous les êtres humains réunis. Comprenez bien ce qui suit, car c'est très important. Si Jésus n'avait été qu'un simple être humain, toute l'humanité ne pourrait recevoir la vie éternelle par lui, et il ne pourrait pas être notre Sauveur. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est mortel n'a pas la vie inhérente en lui. Mais Jésus-Christ, étant un Dieu qui s'était temporairement dépouillé de sa divinité, était devenu humain, et il était dès lors à même de donner sa vie humaine pour payer l'amende des péchés. Car c'est la vie de l'homme que la loi réclame en paiement de l'amende des péchés. Paul écrit « Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, comme quelque chose qu'on le forçait à rejeter, d'être égal, de rester égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Dans ce passage, le mot « dépouiller » est traduit du grec « ekénose », signifiant « se vider, se dépouiller, se rendre sans réputation, s'abaisser, se rendre sans effet ». La Bible de Jérusalem le traduit comme suit « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il légalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, de serviteur, et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort. » La Bible en français courant déclare « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme, il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Le Christ, dépouillé de toute divinité, était devenu un être humain, composé uniquement de chair et de sang. Il pouvait dès lors payer de sa vie l'amende de nos péchés. Comprenez que si le résultat du péché est la mort éternelle, cette mort doit mettre définitivement fin à la vie de l'homme. Paul écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Si Jésus est aussi celui qui s'est présenté à Abraham, au chêne de Mamré, s'il est aussi ce Melchisédek à qui Abraham remit la dîme de tout, ne s'est-il pas trouvé à plusieurs reprises sur terre en tant qu'homme? Jésus-Christ n'a pris qu'une seule fois la nature humaine, une seule fois depuis la création de l'homme. L'apôtre Paul écrit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Le Christ est né, dans la chair, une seule fois seulement, afin de mourir pour l'humanité. Il n'est pas venu avec la nature des anges, mais avec celle de l'homme. Il n'est pas venu mourir pour les anges, mais pour les êtres humains. Les anges sont composés d'esprit, non de chair et de sang. Puisque le Christ est venu mourir pour l'humanité, il a pris sur lui la même nature que celle qui appartient à l'humanité, chair et sang, de façon à pouvoir donner sa vie pour les péchés du monde. L'apôtre Paul déclare « Et ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois qu'il y est entré, dans le sanctuaire céleste, comme le sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, le terrestre, avec du sang étranger, autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Ceci eut lieu lors de la première venue, après être né de chair et de sang par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Paul explique que le Christ est venu la première fois afin de payer l'amende des péchés pour l'humanité, en s'offrant une fois pour toutes. Mais il reviendra pour établir le royaume de Dieu sur terre, et alors il ne sera plus composé de chair et de sang, mais uniquement d'esprit. Après sa résurrection, il apparut en plus d'une occasion à ses disciples, mais il ne fit qu'un bref séjour jusqu'à son ascension, et il n'était pas toujours reconnu immédiatement par eux. À l'époque de l'Ancien Testament, chaque fois que l'Éternel se montra à nos premiers parents, aux patriarches, aux prophètes, ce ne fut que pour peu de temps, afin de révéler la volonté du Père. En aucune de ces occasions, il ne vint pour résider au milieu des hommes pendant des années. Il se manifestait sous forme humaine, tout simplement, mais non en chair et en sang, comme ce fut le cas plus tard. C'est pour cela qu'il pouvait apparaître et disparaître soudainement. Lorsqu'il s'est présenté comme étant Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut, il s'est manifesté sous forme humaine, non composée de chair et de sang. Il en fut de même lorsqu'il s'est présenté à Abraham, qui a vu celui qui allait devenir Jésus-Christ, et en prit la forme d'un homme. Étant un être spirituel, il pouvait apparaître sous forme humaine, tout comme les anges peuvent le faire. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.